pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Les motifs de licenciement des salariés sont comme le monde qui va. Ils vont, évoluent, fluctuent et se spécialisent avec les nouvelles technologies, la persistance du machisme et la précarisation de l'emploi. En 2006 déjà, Catherine Sanderson, une Anglaise d'une trentaine d'années, vivant en France, tient pendant 2 ans un blog sous le pseudonyme de Petite Anglaise, qui connaît un certain succès. Elle y narre sa vie privée, sa famille, son ex-mari, sa petite fille, la France. Elle y fait preuve d'un certain humour, d'une ironie plutôt mordante. Catherine est secrétaire dans un cabinet d'experts comptables. Quand un beau jour, la direction des ressources humaines lui remet une lettre de licenciement pour faute professionnelle grave. Le motif officiel s'appelle « perte de confiance ». Oralement, on lui précise que son blog nuit à l'image de l'entreprise. En 2012, cet autre jeune homme travaille pour une usine de produits chimiques. Sur Facebook, il poste le message suivant « boîte de M, 3 petits points, vivement qu'il vire la DRH ». 3 jours plus tard, il reçoit une convocation de son employeur qui lui montre une copie de son message qu'il considère comme une faute grave. Le jeune homme échappe de peu au licenciement. 1 an plus tôt pourtant, le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a considéré que les propos tenus sur Facebook pouvaient justifier un licenciement pour faute grave. Les Échos rapportent en effet cette histoire, l'histoire de ces salariés qui ont créé sur Facebook une page intitulée « Le club des néfastes ». Ils ont aussi instauré une habitude consistant à y critiquer régulièrement leurs supérieurs hiérarchiques. Dès que leur employeur en prend connaissance, ils sont licenciés pour faute grave. Leur recours auprès des prud'hommes est débouté. Cette année même, en 2016 en Angleterre, une réceptionniste, sachez-le, de 27 ans, a été licenciée pour avoir refusé de mettre des talons hauts. Enfin, moins loin, il y a 1 mois, à Toulouse, l'employeur de Marion lui a demandé de changer de prénom et de se faire appeler Marie parce qu'une autre Marion travaille dans le même service. Marion 1, qui vient d'être engagée comme commerciale dans cette petite entreprise d'articles de soins, estime que son nom de famille peut servir à la distinguer de l'autre Marion. Elle refuse de changer son prénom. Elle est licenciée. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, 3 autres histoires de licenciement au motif tout aussi étonnant. C'est jusqu'à 14h. Elles sont racontées par Ilana Navarro.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Stéphanie Collin, j'ai 55 ans. Il y a quelques années, j'étais auxiliaire de vie pour une association de communes. J'étais en CDD depuis plusieurs années. C'était des CDD soit d'un mois, soit de 6 mois. Ils nous embauchaient pour 3 heures semaine. C'est-à-dire que si on n'avait pas de travail, ils avaient la seule obligation de nous payer 3 heures semaine. Si jamais il y avait un décès ou une personne qui était hospitalisée, on pouvait avoir tout de suite 25 heures de travail dans le mois qui sautait ou 50 heures dans le mois qui disparaissait. Et s'il n'y avait pas d'heures d'autres personnes qui rentraient, on se retrouvait avec beaucoup moins d'heures de travail, quoi. On n'a aucune crédibilité vis-à-vis d'une banque pour un crédit pour une voiture, pour une maison. On ne peut pas se projeter dans l'avenir de toute façon parce qu'on ne sait pas quelle sera notre paye à la fin du mois. Donc on ne peut rien envisager de sérieux, quoi. Et un soir, ma fille et moi, on est allés pendant la campagne électorale de 2012. On est allés voir Mélenchon en meeting. On est allés en bus avec le Parti communiste. On avait affrété un bus, on avait payé notre place dans le bus et tout ça, oui.
Parce que vous n'êtes pas une personne particulièrement engagée.
Non, je ne suis pas syndiquée, ni rien du tout, moi. Voilà. Donc, tous ces humains, voilà, toute cette chaleur humaine qu'il y avait autour de nous, c'était... On a chanté la lutte finale tous ensemble. On a tous pleuré à la fin. Toute la place, tout le monde en pleure. C'était, voilà. Ma fille me tenait, enfin oui, c'était très émouvant. En plus, sortie du meeting comme boostée, comme, je ne sais pas... C'était vachement émouvant. Et voilà, en rentrant donc chez moi, suite à ce meeting et à toute cette énergie-là, J'ai pris ma plume et une feuille et j'ai écrit à Monsieur Sarkozy pour dénoncer les contrats précaires. Alors en ne citant pas ma boîte, en ne citant pas le lieu où je travaillais, juste en mettant mon nom et mon adresse, tout simplement. Monsieur le Président de la République, je vous écris pour vous parler des contrats. Je lui parlais des promesses qu'il avait faites, qui n'avaient pas été tenues sur les emplois, parce qu'il avait dit que justement ces contrats précaires allaient disparaître. Et ces contrats précaires n'ont pas du tout disparu, même maintenant. Et ils sont toujours d'actualité, quoi. Alors je n'écrivais pas particulièrement pour moi. J'écrivais pour toutes les filles qui étaient dans le même cas que moi. J'écrivais pour dénoncer un fait, une situation. Pas pour dénoncer mon travail à moi, qui me plaisait, ni ma boîte, ni voilà. Un joli timbre sur l'enveloppe. Je mets toujours des jolis timbres sur les enveloppes. Et je l'ai envoyé. Et quelques mois plus tard, donc j'ai reçu une lettre de la préfecture comme quoi ils avaient reçu un courrier de la présidence. Et de là, j'ai été convoquée chez mon employeur, qui a reçu donc la même lettre que moi, avec la lettre que j'avais écrite au président de la République. Donc j'ai été convoquée à ma boîte avec la présidente, la chef de service. Bonjour, Madame Collin, qui m'ont dit, asseyez-vous, donc je m'assois. Voilà, et vous avez les mines un peu fermées quand même. Donc ils m'ont montré cette lettre que j'avais envoyée au président de la République. Dans ma lettre, je mettais juste mon nom et mon adresse, et pas la boîte pour qui je bossais. Mais ils ont retrouvé la boîte où je bossais, voilà. Et ils ont envoyé la lettre directement.
Vous savez pas comment ils ont trouvé ?
Pas du tout, mais bon. Ça doit être très facile quand on est au gouvernement de trouver quelqu'un, non ? Enfin, quand on fait partie des hautes fonctions de l'État, je pense, non ? Ça doit être super simple. Et la boîte pour qui je bossais était de gauche. Et m'a dit que ma lettre était une trahison. Donc, ils ne m'ont pas renouvelé mon contrat. Et suite à ça, je me suis retrouvée sans travail. Officieusement, c'était trahison. Et officiellement, inaptitude physique. J'avais mal à une épaule, donc voilà. Je pense qu'après, quand même, j'ai fait comme pas une mini-dépression, mais si, presque, je pense. Le mot trahison, je ne l'ai vraiment pas accepté du tout. Une trahison, j'aurais cité le nom des personnes pour qui je travaillais, j'aurais cité ma boîte. Ça, c'est une trahison, enfin voilà. Mais là, c'était pas comme ça que je le faisais. Je suis allée voir le syndicat aussi après, qui m'a dit qu'il ne pouvait rien du tout pour moi. Voilà, il y a des gens qui m'ont soutenue. J'ai demandé à des collègues de me soutenir, mais elles n'ont pas voulu, de crainte de perdre leur boulot, elles aussi. Je n'ai pas dit au revoir ni rien du tout. Hein. Je ne suis pas retournée, hein, rien, jamais. Non, non. Et si je croise la dame qui m'a dit que j'avais commis une trahison, je lui dis pas bonjour. Et je peux la frôler, je lui dis pas bonjour. Moi, ma lettre, c'était pour la France entière, dans le fond. Je l'écrivais pour toutes les nanas comme moi, quoi. Je veux dire, pour tous les gens comme moi, en situation de contrat d'un mois, de 6 mois, de... Je voulais mettre le doigt là-dessus, moi. Que c'était des situations insupportables pour certaines personnes. Moi encore, je suis quelqu'un qui a le potager, je peux me nourrir avec le potager, qui a des poules, enfin voilà, c'est des trucs que... Mais il y avait des filles qui bossaient comme moi et qui galéraient encore plus que moi, quoi. Hein, Et de ce fait aussi d'accepter tout et n'importe quoi aussi, d'être corvéable à merci aussi. C'est ça que je voulais dire, moi. C'était pas autre chose. Ma boîte, je m'en foutais, moi. C'était un brin de folie, peut-être. J'étais en colère, je crois, depuis longtemps. Je pense que le meeting a fait, je sais pas, que cette colère s'est transformée en écriture. J'ai retrouvé du travail ailleurs, où je suis toujours en CDD. Avec du recul, oui, j'en rigole, oui, je trouve ça même... Moi, je préfère être à ma place tout compte fait que des gens qui m'ont licencié. Non, je prends ça vraiment... Je suis plus heureuse dans le nouveau travail que j'effectue, je suis mieux rémunérée, tout compte fait, ça a été, un mal pour un bien. Thank you.
France Culture, les pieds sur terre.
Alors, je suis Odile, mère de famille. J'ai trois enfants, trois grands-enfants aujourd'hui. J'ai fait des études à Paris, j'ai fait du droit, j'ai fait pour moi-même des études de théologie et d'exégèse. Et puis en 2005, alors que mes enfants étaient scolarisés dans un établissement catholique, la direction m'a demandé, parce qu'elle était dans l'embarras, de reprendre la responsabilité de la catéchèse, du collège et puis ensuite du primaire. Et j'ai dit oui parce que pour moi c'était important, parce que mes enfants étaient dans cet établissement et que je voulais pas que ça s'arrête. Je trouve que c'est un enseignement important et quelque chose de plus que l'enseignement purement scolaire. Voilà. Je n'ai pas grandi dans un milieu catholique, pratiquant. Malgré tout, l'ouverture était importante et le dialogue avec l'autre était une dimension importante. Tout se passait très bien. J'accueillais de plus en plus d'enfants. On avait élargi la catéchèse au sens strict du terme à des enseignements de faits religieux. Et puis j'enseignais aussi à des adultes, à des enfants de confessions différentes. C'était un moment de partage de culture religieuse qui était, voilà, des musulmans, des juifs et puis des chrétiens. Et puis tout d'un coup, ma vie personnelle a basculé. Une procédure de divorce a été entamée et nous avions décidé avec mes enfants de ne rien dire, de manière à ce que la vie privée et la vie professionnelle et scolaire soient séparées et qu'il n'y ait pas d'incidence l'un sur l'autre. Malgré tout, la rumeur a enflé, ça s'est su. Ça s'est su, et puis un jour, la personne dont je dépendais m'a mis au pied du mur et m'a dit « ça se sait, l'atmosphère dans le bureau est intenable, tu dois le dire, tu dois dire que tu divorces ». Là-dessus, je me suis rebellée, je lui ai dit que non, parce que c'était une affaire privée. Et tout d'un coup, c'était non à tout, c'était des propos dégradants sur mon travail. Ça ne correspondait jamais à ce que j'aurais dû faire. Les parents se plaignaient de moi. Donc, une fois je suis arrivée, mon bureau avait été visité. J'avais une belle peluche de l'école qui avait disparu. Mon bureau était sale. Ma feuille de paye qui avait été déposée par la comptabilité dans mon tiroir avait été ouverte. Une fois, je me suis retrouvée à la chapelle, il y avait des travaux, personne m'avait prévenu, personne n'avait prévenu l'électricien, donc il n'y avait plus d'électricité. Voilà, il y avait plein d'exemples. Quand je soumettais des projets de sortie, on me refusait tous mes projets, sans aucune raison valable, d'autant plus que les années précédentes, nous avions quand même une grande latitude. Plus ça va et plus il vous enferme. Tout ce qui est blanc devient noir et tout ce qui est noir aurait dû être blanc. On ne sait plus où on en est et on perd ses repères, hein, petit à petit. Jusqu'au jour où, pour un jeudi saint, donc il y a l'épisode du lavement des pieds, et là, en pleine réunion de préparation, on m'a dit « Ah, se laver les pieds, ça te ferait du bien ». En ce sens que se laver les pieds, c'est être au service de l'autre. Comme si jusqu'à présent, j'avais jamais été au service de l'autre. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et à partir de ce moment-là, il voulait absolument que je parte. Il n'y avait pas d'autre solution. Me licencier aurait été une façon pour eux de reconnaître que mon statut n'était plus conciliable avec mon poste. Or, c'était se mettre peut-être en porte-à-faux. Et ça, c'était pas possible. Ça aurait été aller jusqu'au bout d'un critère discriminatoire. Et je pense que pour eux, il n'était pas possible de me licencier. C'était commettre une faute juridique, mais juridique au sens des lois de la République. Et je me suis retrouvée face à des personnes qui se dédoublaient complètement, à mes yeux. Et d'ailleurs, quelqu'un qui était assez proche de moi et de mes enfants m'a dit « Tu confonds l'ami et l'homme d'église. » Ça veut dire que je peux être d'accord avec toi, être humain, mais je ne peux pas être d'accord avec toi parce que je suis homme d'église et je suis soumis à la loi de l'église, à l'institution. À force de me harceler, ma résistance s'est amenuisée et j'ai été mise en arrêt maladie. J'avais de l'hypertension, j'avais de l'eczéma alors que j'avais jamais eu de problème dermatologique. Et au fur et à mesure, ils ont fini par me licencier puisqu'en fait j'ai été reconnue inapte à tout poste dans l'entreprise. Et ça s'est terminé au prud'homme où là, les juges ont reconnu qu'il y avait eu harcèlement sur ma personne. Et j'ai reçu 6 000 € de dommages et intérêts. Le fondement du licenciement est la procédure de divorce. Mais ce n'est écrit nulle part. Et en fait, jamais on ne dit les choses clairement. On procède que par insinuation, par non-dit, par secret, par opacité. Et donc, on ne pouvait pas aborder le sujet. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui existe, mais qui est non-dit. C'est un état de fait. Et puis, il n'y a pas d'autre solution. C'était vraiment du harcèlement verbal, il n'y a pas d'autre mot. Donc c'était une façon de me faire comprendre que je ne me soumettais pas suffisamment à la règle de l'institution et à la norme de droit canonique. Soit vous rentrez dans le rang, soit vous ne rentrez pas dans le rang. Et si vous sortez du sillon, eh bien on vous broie.
Culture, les pieds sur terre.
Les TGV numéro 8625 et 8025, départ initialement prévu à 15h39, vont entrer en gare, voie 1.
Je peux vous montrer l'endroit où était implanté le magasin, Parfumerie Douglas. Il faut descendre. Ça a bien changé. Il y avait des rayonnages partout là, de parfums, de cosmétiques. C'était pas un gros magasin en espace, parce que là c'est vraiment un petit magasin, un petit espace, mais c'était un gros magasin en chiffres. L'ancien directeur, celui qui m'avait embauché là, il savait que j'étais homosexuel et ça posait aucun problème. Lui-même d'ailleurs était homosexuel. J'ai réussi à avoir un CDI, ce que j'attendais depuis plus de 4 ans. J'aimais en plus mon métier. Là où ça posait problème, ça a été le dernier directeur du magasin, un nouveau. Dès qu'il est arrivé, en fait, le nouveau directeur, il a commencé par en fait poser sa main sur mon épaule en me parlant. Donc c'était des gestes anodins, mais après, au fur et à mesure, c'était... Il me posait sa main sur mon épaule, après il descendait un peu sur le bras en espèce de caresse. Avec l'autre main, de temps en temps... Quand j'étais avec des clients et tout, il passait et avec son doigt, il descendait son doigt le long de mon dos. Enfin, je sais pas, c'était bizarre, quoi. Dans le magasin, devant tout le monde, devant les clients, devant les collègues, c'était ça. Et du coup, j'ai eu plein de fois des gestes de recul, mais c'était vraiment visible et je faisais même exprès d'accentuer justement le mouvement de recul pour qu'ils comprennent bien que ça me dérangeait et que ça se faisait pas, ce genre de choses. Je veux dire, même si, admettons, si comme je suis homosexuel, et admettons que la personne me plaise, je serais pas contre, mais c'est dans le travail, donc faut pas tout mélanger, donc c'est vraiment bizarre, quoi. Et là, franchement, la personne me plaisait pas du tout, en plus. Donc c'était encore plus perturbant. Je lui ai même dit plusieurs fois, il dit non, faut me toucher pas. Donc il a juste fait son air surpris en me disant ah oui, pardon, excusez-moi, et puis c'est tout. Donc juste des paroles mais qui n'ont servi à rien. Plus le temps passait et plus c'était accentué en fait son comportement. Certains collègues font plus attention, donc voient ce qui se passe, mais eux ça les fait marrer. Ils pensaient que c'était de la plaisanterie, que voilà, quoi, que ça ne m'atteignait pas comme ça a pu le faire. Quoi. Et on me disait mais non, mais c'est bon, détends-toi, arrête, c'est rien. Sauf que moi franchement ça m'a dérangé vraiment beaucoup. Et moi j'avais l'impression en fait de dramatiser quelque chose qui était complètement. En fait j'avais l'impression de me prendre la tête sur un problème en fait que j'inventais quoi. Parce que je me disais finalement si tout le monde se marre avec ça, c'est que en fait c'est pas vraiment un problème quoi.
Si lui elle était un homme et vous une femme,
oui.
Tout le monde se serait révolté.
Oui. Oui, ça serait passé pour du harcèlement sexuel clairement. Sauf que moi, comme je suis un homme et que ça se passait entre deux hommes, deux homosexuels en plus, alors on se dit déjà celui qui est, on va dire, le harcelé, il peut se défendre, c'est pas une nana, quoi. Il a plus de solutions, alors que pas forcément.
Pour votre sécurité, nous vous rappelons que dorénavant, l'étiquetage de vos bagages est obligatoire. Lors de votre prochain voyage, pensez à identifier vos bagages. Merci.
Il a voulu clairement m'emmerder jusqu'au moment où il disait que j'avais pas les formations adéquates ni l'expérience, que j'avais rien à faire là-dedans. Il me demandait après plusieurs fois par jour de démissionner. Et puis après, c'était ça, plus des remarques en disant « Oh, notre vendeuse préférée », en parlant de moi. Et puis, sur la fin, c'était la petite pute, ou alors... Mais il faisait en sorte que personne n'entende, à part moi. Il passait, par exemple, en me frôlant, il disait « Petite pute !» Ou alors, c'était des trucs « Combien t'en as sucé ?» Enfin, voilà. Des trucs vraiment... T'es une petite gourmande... Comme ça, voilà. Ça a duré plusieurs mois et un jour j'ai une double scoliose, il le savait, et en fait je m'étais fait mal au dos, du coup je pouvais plus trop me baisser. Et en plus pour les vestiaires en fait fallait passer sous les caisses. C'était comme une petite cage en fait, fallait se baisser, se mettre quasiment à quatre pattes. Et j'avais laissé mes vêtements derrière les caisses en fait, dans une boîte. Là où on rangeait les parfums, et en fait il y a le directeur du magasin, non le directeur pardon régional qui était passé au magasin. Ils ont discuté entre eux, ils sont venus récupérer mes affaires pour les mettre, ils sont repartis avec dans leur bureau. Du coup ils ont pas voulu me rendre mes affaires et j'ai dit bon vous me les rendez, je rentre chez moi parce que là je peux pas travailler dans ces conditions. Et là ils m'ont attrapé et ils m'ont repoussé contre le mur, là où il n'y avait pas de caméra forcément. Et du coup, là, j'ai dit, je m'arrête là, je vais porter plainte. Parce que là, il y a agression physique, j'en peux plus, je craque. Donc, je suis allé au commissariat de Gare du Nord qui était à l'étage au-dessus. Je leur ai expliqué vite fait en disant que c'était pas forcément un dépôt de plainte, mais plus une main courante, histoire d'avoir un écrit, en fait, de ce qui se passait. Ils ont pas voulu la prendre en disant que c'était inutile et que ça servirait à rien. Moi, sur le moment, comme un imbécile, je les ai crus, donc je suis reparti. Je suis allé prendre l'air dehors pendant une heure et demie, je crois. Je pouvais plus, en fait, réfléchir normalement et j'arrivais vraiment plus à dormir, ni manger, ni quoi que ce soit. Donc vraiment, ça m'obsédait. Je pensais plus qu'à ça. Sans pouvoir travailler, du coup, je suis retourné voir mon médecin. Quand je lui ai expliqué vraiment tout ce qui se passait, elle m'a dit « Non, je vous mets pas en arrêt, vous retournez travailler ». Et je lui ai dit clairement, là, si je retourne travailler, c'est soit je retourne travailler avec un couteau de boucher et j'égorge tout le monde, soit je me balance sur les rails. Je fais donc là, j'ai vraiment besoin d'un arrêt, au moins 3-4 jours, je sais pas, quelque chose quoi, parce que là, je peux pas. Je vais faire une grosse connerie. Et elle m'a dit non, vous allez travailler, je vous mets pas d'arrêt. Et du coup, je suis revenu là, à Gare du Nord. J'ai pas pu rentrer dans le magasin, j'ai fait demi-tour, je suis rentré chez moi et je suis plus jamais revenu. J'ai fait un abandon de poste en fait. Et c'était fin mai. Fin mai, ils ont attendu fin juillet pour me licencier. même maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis encore marqué. Et ça me fait toujours vraiment mal de venir ici.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le motif de licenciement. Un reportage d'Ilana Navarro réalisé par Perret Legras. L'attaché de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon. Notre stagiaire, c'est Clément Comte. Merci à Florian et aux autres témoins qui ont bien voulu nous raconter leur histoire. Vos commentaires, c'est sur notre site. Partagez notre émission. C'est sur les réseaux sociaux. On vous y attend avec impatience.